להתחיל על ההגדה. ויוציאנו השם ממצרים, השם לפי סורקיר דג'יפט, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. Ni par l'entremise d'un ange, ni par celle d'un séraphin. Où est Yaakov? Allô? Où est Yaakov? Il n'est pas là? Je comprends pas, oui. Bon, je ne sais pas. Ouais, bon, enfin, je ne sais pas alors. Je ne sais même pas où il est. Bon, on verra. Donc, ni par l'entremise d'un ange, ni par celui d'un séraphin, ni par un envoyé, mais Akadosh Baruch Hu bichvodo batzmo, c'est-à-dire lui-même. Comme c'est marqué dans le Passouk, un verset qui est le verset qui parle de la Makat Bechorot, de la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés égyptiens, où Hashem dit, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim ba'layla azeh, Je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit-là. Ani Hashem, c'est moi Hashem, c'est un raccourci. Ani velo Hashliach, Ani Hashem, Ani hu velo acher. Moi et pas un envoyé, pas quelqu'un que j'enverrai, pas un émissaire, mais moi, moi-même. Ani hu, c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Alors ici, le rédacteur de la Haggadah, il veut nous dire quelque chose de cette fameuse sortie d'Égypte. Il veut nous dire que le processus de sortie d'Égypte, c'est un processus qui est très 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 élevé. C'est quelque chose qui se passe dans les sphères les plus élevées qui soient. Quelque chose qui dépasse tous les processus ordinaires par lesquels Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Quelque chose où cette fois-ci c'est Hashem lui-même qui intervient. Comme le verset dit, Vayotzienu Hashem Mimitzrayim. Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres Makot, les neuf autres Makot, elles ont été envoyées à Paro et à l'Égypte par Moshe, par l'intermédiaire de Moshe et d'Aaron. C'est eux qui étaient en charge de les faire tomber, etc. La Makat Bechorot, elle fait exception. Parce que celle-là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, sans passer par Moshe, qui a envoyé cette Maka. En vérité, les neuf Makot, elles n'avaient pas de quoi faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. On va voir pourquoi. La Geoula, la libération, elle ne pouvait pas se faire avec les neuf Makot en question. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour cela qu'elles étaient. Elles n'étaient pas là pour ça, les Makot en question. Souvenez-vous, quand Hachem envoie Moshe chez Paro pour la toute première fois, il lui dit, tu diras à Paro, Israël, c'est mon premier-né. Et si tu n'acceptes pas de renvoyer mon premier-né, de le libérer, le renvoyer, je tuerai ton premier-né. Donc, tout de suite, Moshe Rabbeinu savait, et Paro le savait aussi, que avec cette macar là, Hachem dit, c'est tu m'agresses, quoi. Je te dis de renvoyer mon premier-né, et si tu ne renvoies pas le mien, je tuerai le tien. Donc, cette maca là, où Hachem va intervenir tout seul, cette maca qui frappe le premier-né d'Égypte et puis tous les premiers-nés égyptiens, cette maca, elle a déjà été présentée d'entrée de jeu, avant toutes les autres, comme étant la maca, si tu ne laisses pas partir, c'est comme ça que je te mettrai KO, comme ça, je tue tous tes premiers-nés. Tuer les premiers-nés, c'est tuer. Si vous voulez, c'est toujours cette fameuse histoire que le premier-né, c'est celui qui... On a déjà vu ces choses-là, non? Je vous ai déjà dit, le mot Bechor, il est un peu spécial parce qu'il veut dire premier-né, et il s'écrit avec trois lettres, Bet, Kaf, Resh, qui toutes les trois veulent dire deux. Le Bet, c'est deux, Kaf, c'est 20, donc deux dans les dizaines, et Resh, c'est deux dans les centaines. Donc c'est un peu paradoxal, ça veut dire que c'est comme Bechor, ça s'écrit 222. Alors a priori, on l'appellerait 111, ça irait mieux quand même, parce que ça ressemble plus au premier. Ouais. Non, comment tu peux appeler 222 le Bechor? Il est construit entièrement avec des lettres qui veulent dire 2. Alors Rav Yitzhak Koutner l'a expliqué qu'en réalité un Bechor, un premier-né, c'est quelqu'un qui est en charge de traduire l'enseignement de son père dans le langage de la nouvelle génération pour ses frères et sœurs qui viennent après lui. Il est un second père en quelque sorte, il est le père qui assure la transition des générations. Il y a le père qui est dans sa génération à lui, et puis il y a le Bechor qui lui est le traducteur, ce qui va dire dans le langage de la nouvelle génération l'enseignement du Père. C'est, avec ça, on comprend très très bien pourquoi il a une double part, etc. C'est ça le... Et si tu casses une civilisation dans laquelle il n'y a pas la traduction, alors ça veut dire que la nouvelle génération, elle ne sait pas, elle est coupée de la précédente. Donc c'est comme si on avait changé de dynastie, par exemple. Donc c'est un truc tout nouveau qui arrive. Les gens qui connaissent pas la culture dans laquelle ils sont nés, etc. Il n'y a pas. Et donc, quand Hachem va tuer les premiers-nés, il va casser l'Égypte complètement. C'est que la nouvelle Égypte, celle qui va survivre après la défaite, elle n'a plus rien à voir avec la précédente parce qu'il manque toutes les charnières qui permettaient de passer d'une génération à l'autre. Voilà, maintenant, ça veut dire, et ça reste encore un peu à expliquer mieux, c'est que Israël est le Bechor d'Hachem. Si je continue dans la même veine, Israël est en charge de traduire pour les autres peuples le langage d'Hachem. Donc, il est le traducteur, Israël, par rapport aux autres peuples, il est le traducteur, celui qui est censé mettre la pensée d'Hachem, ou la parole d'Hachem, à la portée des autres. C'est ça qu'on dit que dans les Nevim, c'est marqué que les Israël doivent être hors la goyim, une lumière pour les peuples. Une lumière, parce qu'ils vont transmettre la lumière au peuple. Bon, je sais. Donc cette maca, là, elle est complètement différente des autres, parce que c'est Hachem qui l'envoie. Les autres macotes, elles ont pour fonction de faire connaître un peu la Emouna, la toute-puissance d'Hachem sur terre, dans les airs et dans l'eau. C'est ça, les trois makot, trois fois trois makot. Trois makot sur terre, trois makot dans les airs et trois makot dans l'eau. Mais c'est la Makad Beforot qui va amener la Geoula, qui va amener la délivrance. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'effectivement, la Géoula, elle n'a pas eu lieu grâce à un envoyé, grâce à un intermédiaire. C'est seulement Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a délivrés. Et c'est un peu ce qui est dit dans le verset. Le verset dit, au sujet de la Matzah, le pasuk dit, « Shelo ispik batsekom shel avoteinu l'achmitz » La pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de fermenter. Ad shenigla alehem melech malchei amlachim vegalam. Avant que ne se dévoile sur eux le roi des rois et les libère. Donc c'est bien ça. C'est la libération est le fait du dévoilement d'Hachem sur les Bnei Israël. Hachem s'est dévoilé en ce qui concerne les Bnei Israël. Seulement, il y a un passouk dans Hoshéa, dans le Navi Hoshéa, qui dit « Ubenavi he'ela Hashem et Israël mi Mitzrayim, ubenavi nishma. » Avec un prophète, par un prophète, Hashem a élevé Israël, il a élevé Israël de l'Égypte, donc c'est comme si bon, l'Égypte c'est en bas, et il a monté le clan d'Israël, de telle sorte qu'il sorte de l'Égypte par le haut, si vous voulez. Et c'est le Navi qui s'est occupé de ça. Mais ici on dit, Vayotzienu Hashem Mimitzrayim. Hashem nous a sorti d'Égypte. Le Halé des Shliach et la Akadosh Baruch Hu Bichlo de Batzmo. Ça a l'air un peu contradictoire. D'un côté, tu dis que c'est le Navi, le prophète, qui nous a fait monter d'Égypte. D'un autre côté, tu dis que c'est Hashem qui nous a sorti d'Égypte. Alors là, le Boiskorov, il a enseigné la chose suivante. Il dit qu'il y a une différence très fine entre la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim et la Ha'ala'a Misham. Et le fait de s'élever en sortant de l'Égypte. Tu vois, c'est comme si la Yetzia était horizontale et que la Ha'ala'a, comme son nom l'indique, c'est vertical. Et donc, on nous dit ici que la Hotsaa, c'est vrai, la sortie elle-même, c'est Hachem qui l'a faite. Mais la Halaa, il l'a fait faire par le prophète. Par Moshe Rabbeinu. Et pour comprendre vraiment ce que dit le Boiskorov ici, il faut qu'on explique un peu mieux ce que ça veut dire que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et lui n'est pas un Shliach. À quelqu'un d'autre. Il n'a pas désigné quelqu'un. Si vous voulez, Hachem n'a pas désigné Moshe Rabbeinu pour nous faire sortir d'Égypte, mais pour nous faire monter vers Israël à partir de l'Égypte. On va voir ce que ça veut dire. En fait, c'est un enseignement qui date du grand-père du Boiskorov, c'est de Béta Lévi. Béta Lévi à la Torah dans Parchat. Beau. Si on le traduit un peu dans notre langage, il dit la chose suivante. En vérité, on a l'habitude de considérer qu'il y a deux processus de direction du monde par Hachem. Un processus qui s'appelle nature et un qui s'appelle miracle. La nature, le processus qui s'appelle nature, il est construit à partir de règles fixes que Akadosh Baruch Hu a mises en place, les règles de la nature. Et le nes, le miracle, c'est en tout cas comme ça que les gens l'entendent. Ben, par opposition, le nes, le miracle, justement, il n'aurait pas de règles. il n'aurait pas de limite. D'accord ? On a le processus avec des règles et des limites, ça c'est la nature, et puis il y aurait le miracle qui lui n'aurait pas ni règle, n'aurait ni règle ni limite. Mais la vérité c'est que ce n'est pas comme ça. La vérité c'est que le processus de miracle, il a aussi des règles. Il a aussi des règles fixes qu'Akadosh Baruch Hu a mise en place. Quand est-ce qu'il a mis en place? Dans Sheshet Yemei Bereshit, dans les six jours de la création, il a mis ses limites en place. Et du coup, même les miracles les plus extraordinaires, à nos yeux, ils sont soumis à des règles spirituelles qui viennent d'en haut, en fait, que Akadosh Baruch Hu a mise dans la nature. Au moment des six jours de la création, il a mis ces règles-là aussi en place. Alors, sous quelle forme est-ce qu'il les a mises en place? Il faudrait dire les choses de la manière suivante. Il les a mises en place comme étant des marges qu'il aurait laissées à côté des lois qu'il a fait. Alors il a mis des lois fixes sur certaines choses et puis une marge. Et les miracles en question, ils entrent dans ces lois, mais dans la marge de ces lois-là. Dans la marge. C'est-à-dire, ça n'obéit pas vraiment aux lois, mais c'est quand même la marge de ces lois. Tous les miracles, même les plus extraordinaires, qui pour nous, effectivement, apparaissent comme des événements qui sortent complètement de toutes les lois fixes, c'est vrai, mais ça n'est vrai que pour nous. Nous, effectivement, nous sommes dans le monde de ce qui s'appelle Olam HaAsiya, dans le monde de l'action. C'est le monde le plus bas, d'accord ? Il y a les mondes de l'émanation, de la création, la formation et le monde de l'Asiya. Donc, nous ne voyons pas, et même, nous ne pouvons même pas imaginer la racine de cette direction qui vient d'en haut. Mais dans les mondes d'en haut, dans les mondes au-dessus du nôtre, qui sont en fait la source de notre monde, puisque vous savez, on a déjà vu ça, que les mondes sont les uns au-dessus des autres, et le monde qui est au-dessus est l'âme du monde d'en dessous. Que notre monde, il a une âme qui lui est donnée par le monde qui est juste au-dessus. Dans le monde qui est juste au-dessus, les choses ne sont pas du tout du même ordre. Elles se correspondent, mais si vous voulez, c'est comme... l'exemple n'est peut-être pas très bon, mais quand vous regardez, je ne sais pas, le monde de la... le monde du développement, par exemple, d'un embryon. Il obéit à des règles qui existent dans notre monde aussi. Seulement parce qu'il est un embryon, parce qu'on est dans la phase embryonnaire, les choses se font ou bien plus vite, ou d'une autre manière, et pas exactement dans le même ordre, etc. Donc, les choses qui se passent dans notre monde, elles ont des racines. Et ces racines, elles appartiennent au monde d'au-dessus, qui lui-même a des racines qui appartiennent au monde, à chaque fois, mais ce n'est pas du tout dans le même ordre. C'est pour ça que, par exemple, maintenant je fais une parenthèse, oui, quand nous, on parle des six jours de la création, Bereshit, Bara, Eloki, c'est-à-dire, on parle de quoi? On parle de ce qui s'appelle la Bria. Bria, c'est un monde, ce n'est pas notre monde. le monde de la Bria. Il y a le monde de l'émanation, comme si vous voulez, c'est là où Hachem, si vous parlez comme ça, il a projeté de construire le monde. Puis ensuite, il y a le monde de Bria, Yetzira, Asiya, le monde de la Bria, cette création. Après, il y a le monde de la forme, la formation. Et puis ensuite seulement, il y a le monde de l'action qui est le nôtre. Par conséquent, ce qui est dit dans la Torah des Shechet et Mevorachim ne décrit pas du tout la création telle qu'elle est vue dans notre monde, puisque le mot qui est utilisé, c'est le mot Bria. C'est-à-dire, on parle d'une création qui est dans le monde de la Bria, qui est deux mondes au-dessus de nous. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé ces choses-là, et qu'est-ce qu'on est censé en faire? C'est une autre affaire. Mais nous n'avons pas de récit de la création telle qu'elle a eu lieu dans ce monde-ci. Le monde dont on parle, c'est un monde où, par exemple, on parle de lumière, mais il n'y a pas de... La lumière, elle est créée bien avant le soleil et la lune et les étoiles. D'accord ? Or, il y a de la lumière. D'où elle vient, cette lumière ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? On n'en sait rien, puisque le soleil et la lune vont être créés le quatrième jour. N'est-ce pas ? Donc, toutes ces choses-là se déroulent d'une certaine manière qui n'a rien à voir avec le déroulement des choses dans notre monde. Donc, c'est toute cette histoire de savoir est-ce que la Bible elle raconte la création des salades. La Torah n'a jamais dit, elle nous a jamais rien dit de la création de notre monde. Pourquoi elle nous parle de la Bria, ça, disons, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Bon, les kabbalistes ils vont expliquer, mais moi je ne sais pas. Bon, mais donc ça veut rien dire du tout. C'est ce qui est dit là-bas, c'est pour des drachotes, etc. Mais ça ne peut pas être pris comme tel, puisque on décrit le monde de la Bria et pas le monde de la Asiya dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans ce monde-là, qui est dans le monde tout en bas, et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe au niveau des racines de ce monde, qui ne sont pas dans ce monde-ci. Comment ça fonctionne, on n'en sait rien. Vous pouvez prendre un exemple, même dans ce monde-ci. Pourquoi c'est la partie gauche du cerveau qui correspond... Il y a une inversion. Dans le cerveau, c'est à gauche, mais ça correspond à la partie droite. Ça veut dire quoi? Ma tête, elle n'est pas dans le même monde que le reste de mon corps. Pourquoi il y a l'inversion droite-gauche? Vous ne pouvez pas mettre... Shane, vous ne pouvez pas mettre le côté droit. On regarde le côté droit. Non, ça ne va pas. C'est tout, je veux rien dire par là, c'est juste pour qu'on se rende compte que... Alors, un exemple. Le feu. Abraham Avinu, il a été jeté dans une fournaise. Et le feu n'a pas touché Abraham. Quelque chose qui nous apparaît comme complètement miraculeux. Parce que, à nos yeux, le feu, quand il est. On lui met un combustible devant les yeux, devant lui, ben il brûle. Il le brûle. Il brûle ce qui peut brûler. Mais vu de. Par les anges, si on peut parler comme ça. Vu du point de vue des anges, Il n'y a pas de naissance du tout, il n'y a pas de miracle. Pourquoi ? La puissance du feu, la puissance destructrice du feu, le fait que le feu va bouffer tout ce qu'il peut bouffer, ouais, brûler tout ce qu'il peut. Ça vient de sa racine dans les mondes supérieurs. Et dans ces mondes supérieurs, la règle, les règles de la nature du monde dans ce monde supérieur, c'est que le feu ne va pas toucher celui que la Midat HaDin dit qu'il n'a pas le droit de toucher. Le feu, chez nous, le feu, il brûle tout. Mais à un certain niveau, le feu, c'est pas, Il est maître de quoi? Comment ça se fait qu'il lui permet de faire ça? Cette nature du feu qui... Bon. En fait, dans notre monde, effectivement, le feu, il brûle. C'est pour ça que on dit aussi qu'il a fallu protéger les Bnei Israël à Makat Bechorot. Pourquoi il fallait les protéger? Ils n'ont jamais été en danger. Hachem, il voulait tuer les premiers-nés égyptiens. Pourquoi on dit qu'il a fallu protéger les... Parce que c'est Rashi ramène que le Malach HaMavet, si l'ange de la mort, là, si on lui donne le pouvoir, ben, il ne fait pas de différence. Il va ratiboiser tout. Il va tuer tout le monde. Donc, quelque part, on ne pouvait pas le laisser faire. Il fallait l'empêcher. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un signe? Hachem, il ne peut pas dire au Malach HaMavet, tu sais, tu tues les Égyptiens et pas les Juifs. Pourquoi il faut mettre un signe? Bon, le signe, il est pour nous, mais pourquoi on a besoin de quelque chose? Parce que dans ce monde-ci, le feu, il brûle. Et même si tu ne le mérites pas, ben, le feu, il brûle quand même. Il y a des choses, effectivement, des tzadikim qui meurent par le feu. D'une certaine manière, ils n'auraient pas dû mourir, d'une certaine manière. Mais dans ce monde-ci, oui, c'est possible. Le feu, il a ce pouvoir. Mais au niveau de la racine, donc comme Avraham Avinu lui-même, il est d'une certaine manière dans un autre monde, le feu s'est arrêté. Il y a un Chazal qui dit que quand Avraham était dans la fournaise, le malar Gabriel, il a dit « je vais envoyer un vent qui va éteindre la fournaise. Il va protéger Avraham. » Hachem lui a dit « non, non. Avraham, il est seul dans son monde, il est unique dans son monde. Il convient, et moi je suis unique dans le monde, il convient que ce soit l'unique qui s'occupe de l'unique. Donc c'est moi qui m'occupe de lui. C'est pas toi. C'est pas un processus quasiment naturel comme l'ange Gabriel, c'est-à-dire la maîtrise du vent, du souffle, etc. Non, non, non. C'est autre chose. Lui, il mérite que je m'en occupe directement. Donc ça se passe comme ça se passe dans un monde très très élevé, où le feu n'a pas plus de pouvoir que celui que la Milatadine lui permet d'avoir. Et la Milatadine, elle ne permettait pas qu'il détruise Abraham, c'est tout. Donc il n'a pas pu. Parce que dans sa racine, il ne pouvait pas le faire. Le Nes de Makat Bechorot, il est tout à fait différent. Et la sortie d'Égypte, qui est la conséquence de Makat Bechorot aussi. Ici, il se passe un nes, un miracle, qui est un nes dans tous les mondes. Ce n'est pas que si tu montes suffisamment, ça apparaîtra, comme on l'a dit sur Abraham Avinu avec le feu, comme quelque chose de normal. Dans tous les mondes, c'est miraculeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le clan Israël en Égypte, il était battel littéralement. Il était complètement annihilé, mais au sens de complètement assimilé à la culture des maîtres, la culture égyptienne. Et eux, ils étaient complètement pris là-dedans. C'est-à-dire, il y a eu une dégringolade d'Ebné Israël quand ils sont arrivés en Égypte, qui est tellement terrible, jusqu'à ce que, en quelque sorte, ils ont été complètement pris par l'idolâtrie égyptienne. Et il n'y avait pas de takana. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Les Ebné Israël sont... Si vous voulez, il faut se représenter un peu les choses, disons... C'est beaucoup plus profond ce qui est dit là, mais réfléchissez. Les gens qui sont sortis d'Égypte, les Juifs qui sont sortis d'Égypte, c'était les Égyptiens. Ça faisait 210 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. Au bout de 210 ans, on est sérieusement assimilés. Surtout qu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Il n'y avait pas de résistance tellement forte. Ils avaient la Mila, mais ils ne faisaient plus la Mila non plus. Parce que la Mila, ils ont dû la faire avant de sortir d'Égypte pour pouvoir manger le Korban Pessah. Donc, ils avaient arrêté de faire la Mila. Donc ils n'avaient quasiment rien qui les distinguait des Égyptiens. C'était des Égyptiens. Et à la limite, les gens qui ont voulu sortir avec eux, les Rébras, c'est aussi des Égyptiens. Et c'est tellement terrible, si vous voulez, que les anges, au passage de la mer, ils sont tournés vers Hachem, ils ont dit, mais pourquoi tu sauves ceux-là et pas ceux-là? Pourquoi tu sauves les Juifs et tu ne sauves pas les Égyptiens? Ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Quelle différence? C'est-à-dire, aux yeux des malachim, aux yeux des anges, il n'y a pas de différence. Pas de différence entre un Juif et un Égyptien. Ça veut dire, les Juifs ne pouvaient pas sortir. Ils étaient Égyptiens. À quel titre ils allaient sortir? Le passouk qui dit, c'est un passouk dans le Navi, Yecheskel, où Hachem dit, « Vayam Rubi », c'est-à-dire ils m'ont trahi, ils se sont révoltés contre moi, et « Ish et shikutse eneyem lo ishlichu, ved gilule mitzraim lo azu ». Ils n'ont pas rejeté les idoles égyptiennes, et ils n'ont pas abandonné ces idoles. Les Navi dit, ils sont restés complètement idolâtres. Et on ramène au nom du Arizal que les Bnei Israël étaient tellement, cette fameuse histoire, qu'ils étaient dans le 49e degré d'impureté. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient dans le 49e degré d'impureté et ils étaient au seuil du 50e. Le 50e, c'est le non-retour. Il n'y a plus personne pour sortir, il n'y a plus de juifs, rien du tout. La Midat Adin, elle disait, mais il faut les détruire. C'est toujours la suite du passouk de Yecheskel. Il dit, va Omer le Chalot, api, bahem. Je vais déclencher ma colère contre eux, le Toch Eretz Mitzrayim, en Égypte. Et les Malachachat, comme je vous ai dit, ils disent, mais ceux-là, ils sont de là, ceux-là, ils sont de là. Il n'y a pas de différence. Ouais, ben c'était un autre midrash. Il y a eu des gens exceptionnels qui étaient bon.
Alors c'était la parade parce que ils avaient gardé la langue, ils avaient gardé les habits,
ils avaient gardé. Ouais, mais c'est d'après ça, d'après le Navi. Donc les Bnei Israël n'avaient pas les moyens en fait. De recevoir le flux de lumière qui représentait la Géoula, la libération. C'est-à-dire, c'est un flux de lumière, une lumière qui est une chaleur, un bonheur, etc. C'est une lumière très positive. Ce flux-là, ils n'avaient pas les moyens de le recevoir. Et vous savez bien que Hachem, il n'envoie pas les choses. Ce n'est pas la semeuse à tout vent, et puis on prend ce qu'on peut. Il y a un feedback. Hachem, il envoie un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la réception? Combien vous pouvez recevoir? Et Hachem envoie exactement ce qu'on peut recevoir. Donc, dans la mesure où on se qualifie, on peut recevoir. Si on ne s'est pas qualifié, on ne reçoit rien du tout. Hachem n'envoie pas. Peut-être ça va marcher. Non. Il n'envoie que là où ça peut marcher. Les lois, même les lois célestes, les lois les plus élevées, elles étaient d'accord qu'il n'y avait aucun espoir de Géoula pour les Bnei Israël. En d'autres termes, les portes de la Géoula, les portes de la délivrance, les portes de la Géoula étaient fermées. Il n'y avait rien à faire. Les Bnei Israël n'avaient aucune chance de pouvoir sortir. Sauf que Akadosh Baruch Hu a cassé les portes pour les Israël. Il a défoncé les portes. Il leur a donné un moyen de sortir. L'image, elle est ils sont sortis par un chesed, une générosité de la part d'Hachem, mitachat le kisse à kavod. Ils ont passé quasiment sous le trône divin, on a creusé, ils ont, Hachem leur a envoyé, inventé un passage. Il n'y avait pas de passage. Il a, en quelque sorte, Hachem a, il a mis en échec les, ces lois-là, même les lois des mondes supérieurs, et il les a libérées. Le mari Bloch, ça veut dire le Rosh Shiva de Telge en Pologne, il avait donné à ce sujet-là une définition halakhique. C'est la chose suivante. Il avait fait la différence entre cette marge, ce reste, et une condition. Alors, regardez, c'est une halakha dans les kinyanim, dans les modes d'acquisition de quelque chose. Par exemple, supposez vous allez acquérir un champ. Vous allez payer pour toute la surface du champ. Mais sur ce champ, il y a une servitude. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir, les gens vont pouvoir passer, parce qu'ils ont le droit de passer. D'accord ? Ça veut dire que vous avez tout acquis, mais il reste quand même une marge que vous n'avez pas complètement acquise, au sens où vous ne pouvez pas empêcher les gens de passer par là-bas. Cette servitude, elle vous empêche. Donc, c'est une acquisition avec ce qu'on appelle un shiur, c'est pas avec un ein, comme un cours. Shiur, c'est shin, yud, vav, un reste. Ce mot-là, de shiur, c'est lui qui sert, quand on parle des chassidim qui mangent des shiraim chez le Rebbe, qui mangent des restes de ce que le Rebbe a mangé, et ça, ça vient de ce que les kohanim, quand on faisait une crêpe, végétal. On faisait une crêpe et on prenait une partie de la pâte qui servait à faire la crêpe. On en prenait très très peu, on en prenait ce qui va dans la paume de la main, et quand on allait araser avec le pouce et avec l'auriculaire, d'accord, donc il y avait juste ce qui était sur les trois doigts, et c'est ça qu'on mettait sur le misbehave, et c'est ça qui était brûlé. Et le reste de la pâte faisait cette fameuse crêpe que les kohanim mangeaient. Et cette crêpe, elle s'appelait le reste du kometz, de petits morceaux qu'on a brûlés. Alors, l'essentiel, c'était ce qui était brûlé. D'accord ? C'est la consommation de l'essentiel, c'est un tout petit morceau, et consommation par les kohanim de l'essentiel, mais cet essentiel-là, il s'appelle shiur, il reste. Parce que par rapport à la table d'Hachem, si vous voulez, l'autel, après ça descend sur la table des kohanim, donc c'est shiur, c'est les restes. C'est sur ce modèle que les chassidim mangent. Le Rebbe, il vient, il trempe sa cuillère dans la soupe, il mange éventuellement, il boit une cuillère, et tout le reste on le distribue. Et pour que les gens aient mangé des restes du rêve. C'est comme s'ils mangeaient de la haute table. Cette notion de la haute table, c'est une notion qui existe partout. J'avais des copains qui étaient à Oxford. Les étudiants, ils mangent. Et il y a une haute table, une table plus située plus haut, dans laquelle sont les professeurs. Et quand on voulait donner du kavod à un étudiant, il était invité à la haute table. Et c'est la ville des femmes d'Alot, c'est la table d'Hachem, c'est la haute table, et notre table à nous, c'est la table. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les shiurim. Jio. Dans un kinyan, quand tu acquiers quelque chose, tu acquiers et tu laisses quelque chose que tu n'as pas acquis complètement, à savoir cette, par exemple, la partie qui, sur laquelle il y a la servitude. Maintenant, il y a une autre possibilité. On peut acquérir la chose, mais mettre une condition. C'est-à-dire, si quelqu'un a acheté un champ, et la condition, c'est qu'il paye dans les 40 jours. Ça, c'est une condition. L'achat, il est complet, mais éventuellement, il peut être complètement annulé. Parce que s'il n'a pas payé dans les 40 jours, au bout de 40 jours, et lui, il croyait qu'il avait un champ, mais il n'a rien. Bon, parce que la condition était que tu satisfais la condition, alors le kinyan est un bon kinyan, tu ne satisfais pas, le kinyan n'en est pas un. Donc c'est deux modes. Et le Maharil Bloch, ici, le tel Jean Chivet, il a dit que tous les miracles, ils sont comme des shiurim. C'est un reste, c'est une marge. Et Bakat Bechorot, c'est un tnaï, une condition. Si vous voulez, la condition, elle était, par exemple, que Hachem a dit, quand il a créé le monde, pourquoi c'est marqué Yom HaShishi, vous vous souvenez? Pourquoi on dit Yom HaShishi et pas Yom Shishi, comme on a dit Yom Sheni, Shlishi, pourquoi on dit Yom HaShishi? Ça fait référence à un autre six, un autre sixième jour, qui est non pas un sixième jour de la semaine, mais un sixième jour du mois de Sivan, qui est le jour où la Torah devait être donnée au Bnei Israël. Et Hachem a dit, je crée le monde, mais il est en suspens, parce qu'il y a une condition. La condition, c'est, si les Bnei Israël acceptent la Torah, alors c'est bien, le monde continuera de vivre. Et s'il n'accepte pas la Torah, je détruis le monde. Donc ça, c'était un kinyan al-tnai, c'est-à-dire ou une construction, une création sous condition. C'est-à-dire, la condition, elle peut détruire la totalité de la chose. Si quelqu'un, il dit, bon, on ne peut pas faire cette chose-là, mais si quelqu'un dit à une femme, Ariat Mekoudesh Etli, tu es ma femme, à condition que tu n'ailles pas chez ton père. Bon, 70 ans, tout va très bien. Il y a 70 ans de mariage, elle va chez son père. Ça veut dire que ça fait 70 ans qu'ils n'étaient pas mariés. D'accord ? Puisqu'il a donné l'équipe du film sous condition. La condition n'a pas été respectée. Bon, ça a annulé l'équipe du film. Bon, on ne laisse pas faire ces choses-là, mais en théorie, on pourrait faire comme ça, si on fait un tnaï, une condition. Donc il a dit, effectivement, que ce que cette maka de Bechorot, elle était comme une condition. Et donc, quelque part, comme si Hachem avait dit quand il a créé le monde, voilà, il y a des règles, y compris les règles des miracles, qui eux sont dans la marge des lois de la nature. Bon, c'est pas les lois de la nature, mais c'est du même ordre, un petit peu plus sophistiqué, quoi. Certains axiomes ne sont pas impératifs. Et puis il y a quelque chose qui va bien au-delà, qui correspond à rien du tout. Et qui est justement cette condition. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait valoir cette condition-là pour sauver les Bnei Israël, pour libérer les Bnei Israël, qui d'après aucune loi spirituelle ou matérielle, dans de quelque monde que ce soit, ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Ils étaient égyptiens, tu ne peux pas. C'est marqué, Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a déjà vu qu'on vienne prendre Goy Mikerev Goy, un peuple au sein même d'un peuple. Le peuple juif, il était au sein du peuple égyptien, mais pas comme un enfant qui serait dans le ventre de sa mère. Mais Pachout, ils étaient imbriqués, il n'y avait qu'un seul peuple en réalité. sortir un peuple du peuple auquel, dans lequel il était complètement mélangé. Ça ne pouvait pas se faire par aucune loi. C'est pour ça que ça convient de dire, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui intervient ici et qui fait quelque chose que on ne pouvait absolument pas faire. Ça ne pouvait pas passer par un quelconque compromis. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire ça. Donc cette démonstration du chesed d'Hachem, qui ne pouvait avoir lieu que par lui, parce que c'était ce processus très 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 élevé qui dépasse, qui contourne toutes les lois ordinaires, toutes les façons de gouverner ordinaires. Celui-là, il venait du nom divin, donc tétragramme, Hachem. Et le Ramchal a expliqué déjà à beaucoup d'endroits que il y a deux façons pour Hachem de gouverner le monde. Normalement, le monde fonctionne selon des règles, des midot connues qu'Hachem a mises dans le monde. Et la règle, c'est que les choses dépendent des actions des hommes. Hachem a fait les choses de telle sorte que le monde va dépendre de l'action des hommes. C'est nous qui pouvons détruire le monde, si on veut, ou construire le monde. Mais, ça c'est vrai en temps normal. Mais quand il y va de questions basiques, fondamentales, alors il y a une autre façon de gouverner, c'est-à-dire qui est le plan divin qui se réalise de toute manière et qui, lui, est totalement indépendant de l'action des hommes. Et ça vient d'un niveau beaucoup plus élevé. Le niveau standard, c'est un niveau dans lequel les hommes, par leurs actions, ont un impact. Bon, c'est un impact qu'on fasse une mitzvah ou qu'on n'en fasse pas, un impact qu'on fasse une avéra ou pas, qu'on prie, etc. C'est un monde dans lequel les hommes ont un pouvoir, qui leur a été donné par Hachem, mais les hommes ont un pouvoir. Mais il y a une façon de diriger qui est encore plus haute, qui elle ne dépend pas du tout des hommes. C'est le projet divin. Hachem, il a un projet. Ce projet va se réaliser de toute façon. La plupart du temps, Hachem fait en sorte que les deux façons de gouverner le monde correspondent. Alors, parenthèse, on avait, je crois, déjà parlé de cela. Il y a un Midrash Tanhuma qui dit la chose suivante. Le Midrash, il est sur le fait que Yosef, parce qu'il a demandé à l'échanson de penser à lui, de dire un bon mot pour lui auprès de Paro, il a écopé 2 ans de tôle de plus. Bon, il est resté 2 ans de plus en prison parce qu'il est passé par l'échanson. Or, on comprend bien qu'en vérité, les choses n'étaient pas mûres 2 ans plus tôt. Paro, il n'avait pas encore rêvé, etc. Il n'y avait pas cette possibilité pour Yosef de devenir vice-roi. Il dit, mais pourquoi tu fais comme si ces 2 ans, ils sont... Il demande à Hachem, pourquoi tu fais comme si les 2 ans, ils sont la conséquence de ma... une faute de ma part, alors que de toute évidence, c'était dans ton plan que ça se passe seulement 2 ans plus tard. Alors, du coup, le Midrash qui commence. Adam Arishon, il dit à Hachem, pourquoi tu fais comme si c'est moi qui ai amené la mort dans le monde, dans ta Torah qui était écrite bien avant la création du monde, on parle de Adam qui yamut be'oel, on parle déjà d'un homme qui va mourir. De quoi tu parles de la mort? Et tant que je ne suis pas arrivé encore, donc, tu fais comme si c'était moi la cause de l'existence de la mort dans le monde. C'était prévu toute éternité. Et Moshe Rabbeinu lui demande, pourquoi tu fais comme si c'est parce que j'ai frappé le rocher que j'entre pas en Eretz Israël, alors que c'est toujours été décidé que c'est Yoshua, c'est écrit que c'est Yoshua qui va faire entrer les Bnei Israël, c'est écrit dans la Torah, etc. Donc, alors la réponse standard sur là-dessus, c'est toujours Nora Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a des façons terribles de procéder. Alors, c'est ce que les Sfaradim chantent à Kippour, qu'est Nora Alila. Les Alilot, les prétextes. Une Alila, c'est un prétexte. Hachem, il prend des prétextes, mais c'est des prétextes seulement. De toute manière, Moshe ne serait jamais entré en Eretz Israël. Alors on a fait comme si c'était dû à son... Hachem, il a fait en sorte que ouais, ça apparaît comme une faute de sa part. Mais dans le Midrash, on voit que Moshe n'est pas dupe. Mais bon, c'est le Midrash. Donc, les choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux anagotes. En général, Hachem fait coïncider. Il fait que les choses apparaissent. Cette chose-là, que c'est pas Moshe qui va en faire entrer Bnei Israël, ça apparaît comme une conséquence de sa conduite. Mais en réalité, c'était toujours le problème. Hachem fait que ça peut apparaître comme ça. C'est deux anagotes, deux façons dont parle le Ramchal, deux façons de gouverner le monde. Chachamim m'ont dit ailleurs, ils ont dit que il y a une souffrance des Bnei Israël qui ont été arrachés à l'Égypte, mais en même temps, celui qui les a arrachés, lui aussi, il souffre. Alors que si Akadosh Baruch Hu lui-même, il souffre. Et le Chazal explique de la manière suivante. Il y a un passouk dans Sefer Dvarim où Hachem dit, enfin c'est Moshe qui dit au nom d'Hachem, « Ve'etrem lakach, vous, il vous a pris, vous les Bnei Israël, dit Moshe, au Bnei Israël, vous, Hachem vous a pris, mi kour à barzel, mi mitraï. » Il vous a pris, il vous a sorti. Cour à Barzel, c'est dans le creuset dans lequel on fait fondre le métal, le fer. On le porte à haute température pour ensuite, je suppose, le tremper, quoi. Dans de l'acier ou je sais pas quoi. Cour à Barzel. Donc vous étiez dans un cour à Barzel. C'était un cour à Barzel en vérité. Vous, quand vous étiez en Mitzrayim, d'abord, c'était en quelque sorte un lieu de formation pour vous. Comme on fait, c'est-à-dire on vous a fait souffrir, mais pour pouvoir vous modeler, pour que vous soyez capable de jouer le rôle que vous devez jouer. Ça, c'est par exemple le fait que il y a des mitzvot dans lesquelles la Torah nous dit, voilà, je te donne cette mitzvah parce que toi, tu as été esclave en Égypte, alors tu sais ce que c'est l'esclavage, donc je t'interdis de faire souffrir un esclave. Donc, si vous voulez, le passage par l'Égypte nous a, de ce point de vue-là, qualifié pour retrouver, semble-t-il, pour cette mitzvah. En fait, c'est pour toutes les mitzvot. Donc, c'est ça, cour à Barzel. Et seulement, c'est le Midrash qui continue, et il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il vous a pris, qui Adam un hôtel la hache, comme quelqu'un qui prend du feu dans ce creuset là, sans les pinces qu'il faut, sans les gants, etc. C'est ce qu'Hachem a fait pour Israël. Donc ça veut dire, lui aussi il a souffert, il s'est brûlé quelque part. Pour pouvoir sortir les Bnei Israël, il fallait se brûler. Donc lui aussi il a souffert. dans l'affaire, dit le Midrash. C'est un Midrash dans Shofar Tov, le Midrash sur Tehilim. Pourquoi? Parce que il fallait ici transgresser en quelque sorte les lois qu'Hachem avait lui-même mises dans le monde pour sortir les Bnei Israël. Les Bnei Israël ne pouvaient pas sortir d'Égypte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'était des Égyptiens, ils étaient complètement Égyptiens. Donc c'était difficile, le Shir HaShirim Rabba, il dit, c'était très difficile à Hachem de sortir les Bnei Israël. Et c'est ce qu'Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, quand il lui a promis la Geoula, il lui a dit, Va'ere Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, Bekel Shaddai. Je me suis donné à voir à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom de Shakai, de Shin Dalel Yud. Ushmi Hashem, mais mon nom tétragramme, ils n'ont jamais expérimenté ça. Et pourtant, c'est Mida Amitit Sheli. Ça, c'est ma vraie personnalité, si Hachem, on peut dire comme ça sur Hachem. Mon vrai moi, dit Hachem, c'est celui qui est attesté avec le tétragramme. Quel Shakai, c'est pas vraiment moi. La reine, pour cette raison, dit Hachem à Moshe, est mort l'Ibné Israël, ani Hachem, moi, Hachem, tétragramme, je suis le tétragramme, c'est ma vraie personnalité. Otseti etrem, je vais vous faire sortir. Mais la karti etrem, l'île et âme, je vais vous prendre comme mon peuple. C'est les verbes qui servent, les quatre verbes avec lesquels on déduit qu'on va boire quatre coupes de vin le soir du seder. Va'iti lachem l'elokim, vidatem ki ani Hashem elokechem, amotzi etrem itachat siblot mitzrayim. Donc ici, Hachem met l'accent sur le fait, c'est moi, mais avec mon vrai moi, si on peut parler comme ça de la part d'Hachem, c'est un peu exagéré. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Les Avot, ils n'ont jamais connu ça. Eux, ils n'ont connu Hachem que sous son aspect El Shakai. Shakai, ça veut dire « Ani hu she'amarti le'olami dai ». La Gemara dans Chagiga explique Shakai, c'est moi qui ai dit à mon monde, ça suffit. Donc, il faut s'imaginer le monde en expansion, d'accord? Et au bout d'un moment, Hachem a dit, ça suffit. Ça veut dire, le monde est assez vaste pour que tout ce que je veux, dit Hachem, qui s'y passe, toutes les situations où l'homme doit pouvoir me reconnaître, etc., que tout ça peut se faire. Bon, ça suffit. On n'a pas besoin de plus de monde. Ça suffit. D'ailleurs. Ce nom-là, il montre effectivement les règles. Il fait partie des règles et de la nature et les limites. J'ai mis des limites, dit Hachem, et voilà les règles. Et quand il dit « j'ai dit, ça suffit », ça inclut non pas seulement les règles de la nature, au sens qu'on donne nous-mêmes aussi, mais aussi les règles du surnaturel, c'est-à-dire les choses qui n'obéissent pas obligatoirement aux règles de la nature et aux limites, mais qui néanmoins obéissent à des règles et qui ont des limites. Mais ces règles et ces limites, elles sont dans les mondes supérieurs. Là-bas, on pouvait dire effectivement « Dai ». À ce niveau-là, on peut dire « Dai » parce que là-bas, on comprend pourquoi Hachem a dit « Dai », suffit. Mais la vraie Mida, la vraie mesure qui est celle du tétragramme, elle exprime une façon de gouverner le monde qui est encore beaucoup plus élevée, quelque chose qui dépasse toutes les limitations et tout ce que quelque chose qui si vous voulez efface complètement le dai, etc. tout ça. Et ça, cette midala, elle a eu une seule expression. Elle a eu lieu, elle ne s'est exprimée qu'une seule façon, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le chesed Eloki, le chesed divin, dans l'extrême, parce que c'était impossible, c'était, ça n'avait pas de place, ce chesed, pour sauver les Bnei Israël ici. Normalement, ça correspond à rien du tout. Mais ça correspond à cette mida au tétragramme. Ça correspond à rien d'autre. Dans tous les mondes, si vous voulez, dans tous les mondes, les Bnei Israël ne pouvaient pas sortir. Mais c'était la mida amitit. Le vrai moi d'Hachem, si on parlait comme ça, c'est celui-là qui a fait sortir les Bnei Israël. Maintenant, il faut essayer de comprendre la chose un petit peu différemment, enfin, un petit peu mieux, si vous voulez. Hachem lui-même, ce qu'il a fait, c'est lui qui a fait sortir Goy Mikerev Goy. Il a arraché les Bnei Israël à l'Égypte, qui était douloureux à la fois pour l'Égypte et douloureux pour les Bnei Israël, et même douloureux pour Hachem. Ça, personne ne pouvait le faire. C'est Hachem, cet arrachement. Ah, il y a le verset qu'on a vu dans Hoshéa qui dit que c'est le prophète qui a élevé, donc Moshe Rabbeinu qui a élevé les Bnei Israël. C'est vrai. C'est-à-dire, le mas et yetsia de l'Égypte, concrètement, une fois qu'Hachem avait détaché le clan Israël de l'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Bon, il est sorti par le haut. Quand les Bnei Israël étaient séparés de l'Égypte, alors Moshe pouvait intervenir. Hachem a fait intervenir Moshe. La Yetzia, c'est l'arrachement lui-même. Ça, il n'y a qu'Hachem qui pouvait le faire. Mais une fois qu'ils sont séparés, alors c'est Moshe Rabbeinu qui a été chargé de faire monter les Bnei Israël, comme les Bnei Israël vont dire par la suite, Moshe qui nous a fait monter de l'Égypte. C'est effectivement lui qui les fait monter de l'Égypte. Monter, ça veut dire sortir de l'Égypte par le haut, c'est-à-dire pour aller en Eretz Israël. Ça, c'est l'arrachement à la Touma de l'Égypte. C'était pas possible par Moshe Rabbeinu non plus. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, je dirais pour ça comme on avait dit avant, horizontalement, arracher les Juifs de l'Égypte. Ça, il y a qu'Hachem qui pouvait le faire. Une fois qu'ils ont été arrachés, maintenant les prendre, les guider, les faire sortir, ça, c'est Moshe qui l'a fait. Les faire monter, c'est... C'est ça que le pasouk dit, le pasouk de Hoshéa qui dit, ou Benavi, elle est là, avec le prophète, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il l'a fait monter. Et ça, je trouve que c'est très important à savoir. C'est-à-dire, que la sortie d'Égypte, ce n'était pas possible. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et pourtant, ils étaient en esclavage,